Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Chapitre 13 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 13. Mais Mademoiselle Angèle était fière, comme nous l'a appris la vieille Madame Morlaix. Par conséquent, elle était brave. La première émotion calmée, elle se relève et, quoique toute tremblante, elle court à une petite table où elle a coutume de déposer une boîte phosphorique. Elle allume sa lampe et revient près du corps. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous » s'écria-t-elle en apercevant le sang qui inondait la face d'Alphonse. « Cet homme a été assassiné, au secours !» Mais Angèle n'a pas de voisin, son cri ne trouve pas d'écho. Alors, maîtrisant ses craintes, elle prend son pot à l'eau, une serviette, et, s'agenouillant à côté du blessé, commence de lui laver le visage. Les traits de l'inconnu sont pâles comme ceux d'un mort, ses yeux fermés, ses lèvres décolorées, mais son pouls bat faiblement. La jeune fille conçoit une espérance. Avec un peu de charpie, appliquée sur la plaie, elle arrête l'effusion du sang, puis, saisissant le flacon d'eau de Cologne qui sert à ses ablutions, elle en humecte les lèvres du patient et lui en frotte le front et les narines. Longtemps ses efforts sont inutiles, mais le pouls monte insensiblement, la chaleur ramène le coloris sur les joues de l'évadé, Angèle redouble ses lotions et ses frictions, et enfin Alphonse ouvre à demi les paupières en murmurant « Où suis-je ?» Fin du chapitre 13 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 14 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 14. Le croira-t-on? Ces trois mots épouvantèrent plus Mademoiselle Angèle que sa chute à son entrée chez elle. Elle recula, timide, palpitante, incapable d'articuler une réponse. Tant qu'elle avait eu affaire à un être inanimé, sa pitié naturelle, cet instinct qui invite toutes les femmes à secourir la faiblesse, avait étouffé ses appréhensions pour guider son cœur et sa main. Mais quand le blessé renaquit à la vie, la position changea. Mille pensées, mille craintes envahirent le cerveau de la jeune fille. Quel était cet homme? D'où venait-il? Comment s'était-il introduit dans son domicile? Si c'était un voleur, un meurtrier, un incendiaire? Cependant, Alphonse fit un mouvement. « J'ai soif, » dit-il, en essayant de se mettre sur son séant. La frayeur d'Angèle augmenta, car elle s'aperçut alors seulement du désordre qui régnait dans la toilette de l'étranger, dont les vêtements déchirés étaient maculés de fange et de sang. « J'ai soif, » répéta Alphonse, qui était parvenu à fixer perpendiculairement son coude au plancher et à placer sa tête dans le creux de sa main. « Donnez-moi à boire !» Sa voix avait des inflexions si suppliantes, si douloureuses, qu'Angèle, se reprochant la pusillanimité qu'elle venait de manifester, s'empressa de lui offrir un verre d'eau. Un regard plein de gratitude la remercia de ce service. Le malade prit le verre, mais ses doigts affaiblis ne purent en supporter le poids, et la gentille infirmière fut obligée de se baisser pour l'aider à porter le vase à ses lèvres. Fin du chapitre 14 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulay à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 15 de la deuxième partie. L'évasion de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 15. L'imagination d'un artiste aurait peine à inventer un tableau plus émouvant que celui-là dont le hasard s'était chargé de poser les personnages et de broyer les couleurs. Pour encadrement, une chambre à demi plongée dans l'ombre. Au premier plan, éclairée par la clarté douteuse d'une lampe, une gracieuse figure d'enfant resplendissante de fraîcheur et de jeunesse, accroupie devant un homme étendu, la moitié de la face ensevelie dans le clair-obscur, l'autre moitié, blanche, livide, marbrée de taches sanguinolentes, les cheveux luisants, plaqués contre les tempes, lui présente un verre d'eau en soutenant la tête de l'objet de ses soins avec son bras passé, doux oreiller, autour de son cou. Au second plan apparaît confusément la forme d'un lit caché par des rideaux d'indienne. Il y a, dans le profil de l'homme, quelque chose qui rappelle le visage du Christ dans la descente de croix de Rubens. La jeune fille se montre à nous comme la charité. Le tout a un caractère lugubre et doux à la fois. Si la tête et la posture de l'homme évoquent à l'esprit des idées sinistres, si le frisson court par tous les membres en contemplant cette masse inerte de laquelle le souffle semble près d'expirer, l'attitude de la femme, la compassion pleine d'anxiété rayonnant sur sa physionomie, font souvenir de ces anges que Dieu nous envoie dans nos rêves pour soulager nos misères humaines par la promesse d'une vie meilleure. Fin du chapitre 15 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulay à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 16 de la deuxième partie. L'évasion de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 16. Alphonse but lentement, puis il attira à lui la main de sa bienfaitrice et la baisa. « Comment vous trouvez-vous maintenant ? » hasarda Angèle, n'osant retirer son bras. L'évadé l'examinait d'un air étonné et reconnaissant. « Souffrez-vous toujours ? » dit la jeune fille en inclinant ses longues paupières. « Je ne sais, je ne sais. Voulez-vous que j'aille chercher un médecin ? » ?»« Un médecin ? Non, non, oh, je vous en conjure. Tenez, pardon, mademoiselle, pardon, je suis mieux. Bien, je vais m'éloigner. » Alphonse tenta en effet de se soulever, mais ses forces lui firent défaut, et sans l'appui d'Angèle, sa tête serait tombée lourdement sur le plancher. « Attendez un moment, » dit-elle, « je cours mander le docteur. » « De grâce, mademoiselle, qui que vous soyez, ayez pitié d'un malheureux, ne me livrez pas à mes bourreaux. » Angèle tressaillit. « À vos bourreaux ? » ?»« Ce soir, je me suis échappée de la prison. » « De la prison, juste ciel !» Soyez sans inquiétude, mademoiselle. Je ne suis ni un fripon, ni un faussaire. Mais j'avais été incarcérée pour délit politique, et cette nuit, je suis parvenue à briser mes fers. On m'a poursuivie. Traquée par les soldats, blessée, ne sachant où j'allais, ce que je faisais, je me suis jetée dans cette maison. Et, tenez, mademoiselle, entendez-vous ? Oh, entendez-vous ? Ils sont là, dans la rue, là. Ils me cherchent. Ils vont entrer ici. Je suis perdue. Par grâce, pour l'amour de votre mère, mademoiselle, cachez-moi, défendez-moi. Ils viennent, ne les laissez point entrer. » Alphonse ne se trompait pas. Les fantassins, partis à sa piste, rôdaient autour de la demeure d'Angèle, en poussant des vociférations et d'horribles blasphèmes, et, déjà, quelques-uns d'entre eux avaient mis le pied dans l'allée qui précédait la chambre de la jeune fille. Fin du chapitre 16 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulay à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 17 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 17. Angèle se leva, courut à la porte et la ferma au verrou. Puis, revenant vers Alphonse, « Essayez de vous traîner, » dit-elle. Le jeune homme parvint à se mettre debout et, s'appuyant sur l'épaule de sa protectrice, entra dans un petit cabinet attenant à la chambre. « Restez ici et ne bougez pas, » lui souffla Angèle, qui, aussitôt, retourna dans la pièce principale. On frappait à la porte. Angèle éteignit la lampe et se jeta tout habillée sur son lit. Les coups redoublèrent contre le frêle panneau de pin, et la jeune fille, tremblante, allait essayer de répondre lorsque l'audition du dialogue suivant l'engagea à rester muette.
« Que faites-vous là, vous autres ?»«
Mais, sergent, on a aperçu le prisonnier de ce côté. »«
Est-ce une raison pour troubler l'ordre public ? Allons, décampez. D'ailleurs, on l'a vu il n'y a qu'un instant filer le long du quai. »
Dick prétend qu'il s'est introduit dans cette allée.
Oui, by God, j'en suis sûr. Tenez, regardez, voici des empreintes humides sur le plancher. Bast, c'est un soulier de femme.
Hors d'ici, cria le premier interlocuteur. Ok, en avant, marche!
Ce commandement reçut aussitôt son exécution. Le bruit des voix, le son des pas, s'éteignirent peu à peu dans le lointain, et l'on n'entendit plus que les sifflements du vent et le clapotis de la pluie qui tombait sur un sol fangeux. Fin du chapitre 17 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 18 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 18. Le départ des soldats détourna le poids qui oppressait la poitrine d'Angèle. Le premier mouvement de son cœur fut un mouvement de reconnaissance au maître de nos destinées. Ensuite, elle sauta à bas de son lit, ralluma la lampe et courut au cabinet. Mais avant de tourner la clé dans la serrure, Angèle s'arrêta. Sa timidité, bannie par l'imminence d'un péril, renaissait escortée de craintes sans objet, de palpitations, d'irrésolution. Toutefois, après quelques pourparlers avec sa raison, la jeune fille se décida à ouvrir. Alphonse s'était assis sur un coffre qui renfermait la plus grande partie des effets de notre héroïne.
« Ils sont partis, vous pouvez être tranquille, » lui dit-elle d'un air presque embarrassé.
« Partis ? » répliqua-t-il.
« Oh, comment pourrais-je jamais m'acquitter envers vous, mademoiselle ?»
Angèle balbutia une phrase inintelligible, et l'évadé reprit.
« Partis, ils sont partis. Il faut partir aussi, moi. »
En disant ces mots, il se dressa et se soutint à la cloison de la pièce. Mais voulant ensuite avancer, ses genoux flageolèrent sous lui, il trébucha, et sans le secours d'Angèle, serait encore tombé à terre.
« Vous êtes trop faible pour marcher. »
insinua-t-elle, avec cette douceur persuasive qui rend la voix des femmes si éloquente quand elles désirent une chose.
« Restez ici. Je ferai un lit dans ce cabinet, et demain matin... »
Alphonse ne demandait pas mieux que d'obéir. Bientôt Angèle, avec son propre matelas et quelques couvertures, eut confectionné un lit, et prenant goût au métier de garde-malade, elle pansa la blessure de l'échappée, lui fit boire du bouillon chaud, et dit, en le quittant,
« Maintenant, monsieur, couchez-vous. Le repos vous fera du bien. Si, par hasard, vous aviez besoin de quelque chose, n'oubliez pas de frapper. »
Ému jusqu'aux larmes par les témoignages de cette adorable bienveillance, et ne trouvant pas d'expression pour manifester sa gratitude, Alphonse prit la main de la jeune fille et la porta doucement à ses lèvres.
« Oh, merci, merci » murmura-t-il. « La vertu n'est donc pas un vain mot, une affaire d'hypocrisie et d'ostentation. Oh, merci, merci, mademoiselle. Mais, je vous en conjure, dites-moi votre nom, afin que ce nom je le révère comme on révère le nom de sa mère jusqu'au dernier soupir. »
« Angèle, » répondit la jeune fille.
« Angèle, Dieu inspira votre marraine. »
Une demi-heure après, Alphonse dormait d'un sommeil agité, mais Angèle était en proie à une fiévreuse insomnie. Fin du chapitre 18 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 19 de la deuxième partie, l'évasion, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 19. Qu'est-ce que l'amour? Qui pourra me dire ce que c'est que l'amour? Depuis l'origine des choses, on s'est efforcé de définir ce sentiment qui embrase deux êtres de sexe différent d'une flamme souvent inextinguible. L'amour, s'écrient les philosophes cosmogoniques, est le principe de tout. L'amour, affirment les réformateurs, sera la base des sociétés futures. L'amour, chante le poète, c'est le bleu de l'éther. L'amour, prononce l'artiste, c'est l'idéal du beau. L'amour, écrit le psychologiste, c'est de l'égoïsme à deux. Voilà bien des solutions. Laquelle est la vraie? Laquelle est la meilleure? Vous hésitez? Hélas, vous avez raison, car lorsque vous avez interrogé philosophes cosmogoniques, réformateurs, poètes, artistes, psychologistes, vous ressemblez à l'astrologue de La Fontaine. En voulant étudier les astres, vous vous êtes jeté dans un puits. L'amour est donc un phénomène indéfinissable. Nous l'appelons phénomène parce que les étrangetés les plus incroyables, les accouplements les plus disparates, les contrastes les plus choquants, les anomalies les plus révoltantes naissent de l'amour beaucoup plus souvent que le simple, le naturel et le vraisemblable. C'est surtout en amour que l'observation de Napoléon est juste. On devrait rayer le mot « impossible » du dictionnaire. Pas un de nous qui ne marche en ce monde guidé par le phare de l'amour. Le Safle de Gensu est un monstre. L'homme, engendré par l'amour, vit par et pour l'attraction qui lui donne à l'être. C'est là le signe de sa faiblesse, son péché originel. À la nourrice ses premières affections, à la famille son attachement, ensuite à la femme sa tendresse, aux enfants plus tard ses caprices. Fier, intraitable, cuirassé de dédain, de morgue, d'indépendance pour les indifférents, nous sommes doux, flexibles, timides, esclaves pour ceux que nous aimons. Hercule et Omphale, David et Bethsabée, Samson et Dalila, Holoferne et Judith, les exemples abondent dans l'histoire ancienne. Ils fourmillent dans l'histoire contemporaine. Et qu'on n'imagine pas que cette servitude soit volontaire. Non. L'homme fort répugne à s'humilier même devant ceux qu'il aime. Mais ses intérêts commandent cette soumission, et il plie respectueusement. Ses intérêts, disons-nous, car, abstraction faite des passions, l'homme sent la nécessité de ménager ceux qu'il aime, et il les ménage, moins à cause des qualités qu'il reconnaît en eux qu'à cause du profit qu'il tirera de ces qualités. L'amour égalise les rangs. C'est le grand niveleur chargé de transformer insensiblement la société et d'entretenir cette sève de perfectibilité dont Dieu a déposé quelques gouttes au fond de notre âme, desséchée par le souffle de l'infortune. L'amour, proprement dit, celui qui enflamme à la fois un homme et une femme, cet amour est le plus énergique de tous. Son contrôle sur nous est omnipotent, et nos efforts pour le repousser, quand il nous enchaîne, ces efforts n'ont, la plupart du temps, d'autres résultats que de river plus solidement les fers dont nous voudrions nous débarrasser. Fruit d'un regard, d'une parole, d'un frôlement de robe, du récit d'une aventure, d'un son, d'un rien, l'amour tombe plus souvent à l'improviste sur le cœur. Parfois, l'explosion est soudaine. Parfois, elle se fait attendre. Mais dans ce cas, le feu couve, brûle sourdement, et finit par éclater avec une violence d'autant plus grande qu'il est resté davantage invisible. Alors, comme auparavant, il fait aliment et combustible de tout ce qui devrait l'étouffer. Les obstacles, les déceptions, les rebuffades, les mépris l'attisent, l'espérance le nourrit, l'idéal le grandit, la réalité l'étouffe. On a répété à satiété que le mariage était l'éteignoir de l'amour. Ajoutons, ce que plus d'un penseur a dit ou écrit avant nous, que la possession de l'objet aimé est le cénotaphe de l'amour, et nous pourrons, à l'instar de maints confrères, nous vanter d'avoir commis bon nombre de lignes, sans utilité pour la science, quoique non sans utilité pour les marchands de papier, ce qui prouve qu'en métaphysique comme en physique, il n'y a rien d'inutile ici-bas. Amen. Fin du chapitre 19 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulay, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 20 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 20. L'aurore se montra souriante, radieuse. Bientôt un rayon de soleil, aux teintes molles et rosées, vint se tamiser à travers les persiennes de la fenêtre de Mademoiselle Angèle et s'ébattre sur le plancher de sa chambre. La jeune fille se leva et s'approcha du cabinet. Elle frappa timidement, mais sans recevoir de réponse. Après avoir attendu une minute ou deux, Angèle se détermina à entrer. Alphonse était couché. Son corps frissonnait, ses dents s'entrechoquaient, il avait le visage inondé de sueur, et ses grands yeux ouverts, immobiles, annonçaient l'égarement. Angèle s'approcha et lui prit le bras. « Êtes-vous plus malade ?» Il resta silencieux, sans changer de posture. Son haleine était chaude et bruyante. « Il a la fièvre, une fièvre cérébrale !» murmura la jeune fille. « Mon Dieu, quelle affreuse situation pour tous deux! Que faire? Appeler un médecin? Il n'y faut pas songer. Le garder ici, près de moi? On s'apercevra de sa présence. Et les soins qui lui manqueront? Mon Dieu, qui pourra me tirer d'embarras? Mais... Oh oui, c'est ça, oui, mon bon ami Pierre. Oh, il ne me refusera pas, j'en suis certaine. Allons, je cours chez lui avant qu'il ne soit parti. » En achevant ces mots, Mademoiselle Angèle jeta une mante sur ses épaules et, après avoir enfermé son protégé à double tour, se rendit précipitamment à la rue des Voltigeurs. Fin du chapitre 20 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulay, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 21 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 21. Il était 5 heures à peine. Debout sur le seuil de sa porte, Pierre Morlaix fumait une pipe, tandis que sa mère préparait le café. « Ah ah, c'est toi, fillette !» dit le charretier, en voyant Angèle. « Mais quoi, si matinale? Viens-tu déjeuner avec nous ?»«
J'aurais à vous parler, » répondit-elle à mi-voix.
« À me parler, à moi ?» « Parle, fillette, parle, je suis tout oreille. »«
Pas ici, on pourrait nous entendre. »«
Oh oh, c'est donc sérieux ? Mais comme te v'la fête, Seigneur Dieu, est-ce que tu serais malade ?»«
Non, non, entrons dans la salle. »«
Comme il te plaira, » dit le charretier, en frappant sa pipe sur le revers de sa main pour en faire tomber les cendres. « Comme il te plaira, fillette. Mais puisque te v'la, tu prendras bien une tasse de café avec nous. Ça n'empêchera pas de déboutonner ton petit cœur. »
« Du tout. » Ce que j'ai à vous dire est très pressé. Il n'y a pas un moment à perdre.
Pour lors, j'écoute. Ils étaient dans la chambre. Angèle narra brièvement au charretier ce qui lui était arrivé depuis son retour chez elle. On s'imagine aisément la surprise du brave Pierre en entendant un pareil récit. Il poussait des exclamations, lançait fort ce « bateau, tonnerre !» et épuisait toutes les interjections que lui fournissait son vocabulaire admiratif.
« Eh bien, » dit Angèle en terminant, « il faut aviser. »«
Diable, oui, il faut aviser, » répondit le charretier, se grattant le front suivant son habitude lorsqu'il était contrarié.
« Nous ne pouvons songer à rendre ce pauvre jeune homme aux gens de police. »«
Aux gens de police ? Le rendre aux gens de police ? Que non, que non ! Rendre un Canadien à ces brigands de policemen ? J'aimerais mieux être pendu en haut du clocher de l'English Church. »
« Oui, » dit en souriant Angèle, « je sais que vous n'aimez pas énormément les hommes de police, mais cela...
Bon, bon, j'y suis. Attends, je vais dire un mot à la mère, puis atteler mes chevaux à la calèche couverte, et si ce particulier est ce qu'il prétend être, nous le garderons caché ici, où il ne manquera de rien. »
« Excellent ami. Oh, que je vous embrasse !» s'écria Angèle, dans un élan de reconnaissance qui prouvait que son cœur...
« Mesdames nos lectrices, veuillez nous excuser. Une médisance, peut-être bien une calomnie, allait glisser de notre plume, quand heureusement nous nous sommes aperçus qu'il était temps de finir ce chapitre. Fin du chapitre 21 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 22 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 22. Et Pierre courut à l'écurie, atteler ses meilleurs chevaux, les rejetons de Carillon et la Brune, deux maîtresses bêtes dans leur temps, mais, hélas, descendues de vie à trépas depuis une dizaine d'années, à sa calèche couverte. Note. Les Canadiens appellent calèche une voiture à un seul cheval, montée sur des roues fort élevées. Fin de la note. Tandis que la vieille Madame Morlaix disait à Angèle « Mais qu'est-ce qu'il y a donc, mon enfant? Jésus Seigneur, comme tu sembles tout ahuri! Et notre Pierre qui est sans devant d'arrière et tout, depuis que t'es entrée !» La jeune fille s'empressa de conter à la veuve ce qui lui était survenu. « Ce pauvre cher garçon !» s'écria la mère Morlaix. « Est-il bien sévèrement blessé ?»« J'espère que ce ne sera rien. Quelques jours de repos. Crées-tu ? » ?»« Dame !» Mais encore, que tournura-t-il? Te paraît-il bien comme il faut? C'est terrible! Mon divin sauveur, une aventure comme celle-là! Qu'est-ce qui aurait jamais imaginé, mon enfant? Tout de même que le monde d'aujourd'hui est un drôle de monde. Mais est-il jeune, est-il vieux? Car enfin, c'est bien curieux que cette histoire-là! Comment que tu l'appelles? J'ignore son nom, répondit Angèle, trop occupée par le tourbillon d'idées qui roulait dans son cerveau, pour accorder une constante attention à la loquacité de la bonne vieille. Fin du chapitre 22 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 23 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 23. En ce moment, un individu entra dans la salle en s'écriant familièrement « Bonjour, Mme Morlaix et la compagnie !» C'était Jacques, le cavalier qui, la veille, avait reconduit Angèle à sa demeure. Celle-ci frémit involontairement. « Bonjour, mademoiselle, » ajouta-t-il ensuite, en s'inclinant devant la jeune fille. « Vous êtes aussi matinale que l'aurore, et je suis enchantée de voir que notre veillée n'a pas flétri les roses de votre teint. » Maître Jacques débita ce madrigal comme un perroquet qui puise ses inspirations dans sa mémoire et qui est enchanté de saisir l'occasion de produire ses connaissances. Un coup d'œil à notre héroïne et une seconde de réflexion l'eussent convaincu qu'il fallait changer la gamme de sa formule complimenteuse. « Vous êtes bien aimable, monsieur Jacques, » murmura Angèle, maudissant dans le fond de son cœur l'arrivée de l'intrus. « L'amabilité, mademoiselle, est le fruit de votre présence. »« Et la flatterie, monsieur, le fruit de vos lèvres, » répliqua la jeune fille, en ébauchant un sourire contraint. « Ah ben, où-ce que tu t'en vas donc comme ça, mon gars ?» intervint Madame Morlaix, pour couper court à ce dialogue. « À la pointe aux trembles. »« Pourquoi faire ?»« Oh, rien de bien particulier. Je suis riche, vous savez, et n'ai pas besoin de me fouler la rate. »« C'est vrai, ça. T'es riche, toi, Jacques. » Ton père a de beaux biens.
Hé hé, oui, tout de même, dit le jeune homme en se rengorgeant dans sa cravate. Celle qui voudra me marier sera joliment heureuse, hein, Mme Morlaix? Pour le sûr, elle ne manquera pas de butin. Seigneur Dieu, y en a-t-il du butin chez vous? Vous l'avez dit, Mme Morlaix, et quand Mlle Angèle voudra. Au revoir, monsieur Jacques, dit cette dernière en se dirigeant vers la porte.
Est-ce que ma proposition?
Je vais à mon magasin.
À votre magasin? « Déjà? Mais il n'est pas même 6 heures. »«
Oh, j'ai de l'ouvrage très pressé. »«
Permettez-moi de vous accompagner. »«
Non, non, merci de votre obligeance. Au revoir. »
Et la jeune fille sortit aussitôt, laissant son amoureux tout stupéfait de cette brusque retraite. Fin du chapitre 23 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 24 de la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 24. Jacques Bourgeot était un gros garçon de 24 ans,
joufflu, imberbe et fortement enclin à l'embonpoint. Il avait les cheveux d'un blond ardent, le front bas, inexpressif, les yeux petits, d'un gris terne, le nez gros, le visage rond, le col épais, les épaules larges, les membres courts et charnus. Rien dans sa physionomie n'indiquait l'intelligence. Tout, au contraire, annonçait un esprit lourd, comme la carapace qui l'enveloppait et dont les fonctions devaient se borner à des actes corporels. À la vue de cet homme, un disciple de Swedenborg n'aurait pas manqué de dire « Voilà une création humaine incomplète ! Jamais l'être intérieur n'a réussi et ne réussira à triompher de l'être extérieur. L'ange qui est en nous ne saurait vivre derrière cette forteresse d'animalité. Toutes les énergies de l'individu doivent être employées au jeu des sens externes, au lieu de sustenter les fluides intellectuels, et le dualisme, principe de notre infinie perfectibilité, doit être paralysé par la matérialisation de toutes les essences spirituelles. » Un partisan de Gall eut trouvé, sur son crâne, la bosse de la sécrétivité, et un apôtre de l'avatère eut distingué sur son visage des signes non équivoques d'égoïsme. Disons-le à l'honneur de la science, physiognomoniste, phrénologiste et spiritualiste ne se seraient pas trompés. Jacques Bourgeot possédait malheureusement, à un haut degré, toutes les imperfections diagnostiquées par son aspect physique. Incapable d'une pensée originale, dissimulé, vaniteux, ne recevant d'impression que par l'épiderme, il était complètement étranger aux jouissances des nobles sentiments. Son beau-père, ancien commerçant, retiré des affaires depuis quelques années, avait essayé de lui donner une instruction en rapport avec sa fortune. Mais Jacques résista à toutes les tentatives des professeurs pour lui enseigner les premiers éléments des langues françaises, anglaises et latines. Il sortit du collège, comme il y était entré, sachant lire et écrire. Cependant, il avait complété son cours d'études, sa famille n'en demandait pas davantage. L'orgueil maternel se trouva pleinement satisfait quand le jeune crétin demanda la permission de voyager en Europe pour achever de se former. Cette demande fut considérée comme une preuve d'esprit si extraordinaire que l'ex-négociant, quoiqu'il fût avare et aima peu le fils de sa femme, accorda à celui-ci un crédit chez un banquier de Londres, et Jacques partit immédiatement. Après une absence de 18 mois, et après avoir gaspillé 1200 louis, notre touriste revint, rapportant de ses pérégrinations une plantureuse cargaison de suffisance, des pantalons à la dernière mode de Paris, des gilets et des faux-cols suivant le plus mauvais goût de Hyde Park, mais pas une bribe de connaissance. À ceux qui l'interrogèrent sur la Grande-Bretagne, il répondit que c'était un pays ennuyeux. Par contre, la France lui avait semblé fort amusante. Et, à une personne qui lui vantait les monuments de Rome, il répliqua « Oui, c'est bien beau, quand on sait l'italien. » Néanmoins, les toilettes de Jacques obtinrent quelques succès. Lancé dans le monde sous le patronage de grandes espérances pécuniaires, notre jeune homme se vit courtisé par les mamans qui avaient des filles à marier. Mais à mesure qu'on découvrit l'inanité de son cerveau, le cercle qui s'était arrondi autour de l'opulent Bourgeot se rétrécit et, un jour, il se trouva aussi isolé que le plus chétif étudiant en droit de sa ville natale. C'est alors qu'il lia connaissance avec Angèle. Un incident assez vulgaire amena cette liaison. Certains soirs d'hiver, la jeune fille, revenant de l'atelier de couture où elle était employée, fut attaquée au coin de la rue Montcalm par un soldat ivre. La nuit était noire, le quartier silencieux. Le militaire crut que l'heure et le lieu étaient propices pour accomplir un détestable projet, mais la victime se débattit vigoureusement en appelant au secours. Jacques, qui rôdait aux environs, accourut à ses cris, et l'agresseur, en apercevant un témoin de sa brutalité, prit sur-le-champ la fuite. Le résultat de cette délivrance est facile à comprendre. Jacques sollicita et obtint la faveur d'escorter jusqu'à domicile sa belle protégée. En la quittant, il sollicita et obtint encore la faveur de rendre quelques visites, et, à peine un mois s'était-il écoulé depuis cet événement, qu'il jurait à Angèle de l'aimer toute sa vie.
La jeune fille avait prévu la déclaration, car une femme n'ignore jamais les sentiments qu'elle inspire. Mais, quoique la fortune de Jacques eût pu la séduire, elle ne lui fit aucune promesse. Toutefois, imprudente, comme on l'est à son âge, et s'imaginant que la gratitude lui imposait des obligations envers l'homme qui l'avait arraché aux violences d'un ivrogne, Angèle se plut à attiser la flamme qu'elle avait allumée. Aussi, timide à son origine, l'amour de Bourgeot, s'irritant de la retenue de celle qui en était l'objet, et s'alimentant des lueurs d'espérance que parfois elle lui laissait entrevoir, devint-il promptement une passion impérieuse et tyrannique. Certes, cette passion n'avait pas le caractère pur et sacré des grandes affections. C'était un instinct ardent, irrésistible, capable d'opérer des prodiges pour être payé de retour, et capable, en même temps, des plus noirs forfaits pour arriver à la possession de ce qu'il convoitait. Angèle ne se doutait guère des dangers de sa position, dont elle aggravait sans cesse les périls. En sa présence, Jacques se montrait souple, respectueux, humble, plein d'égards et d'obséquiosité, et l'imprévoyant enfant jouait avec lui comme une colombe sur les filets de l'oiseleur. Mais si elle eût observé son amant, lorsque, par hasard, elle adressait la parole à un autre homme, si elle l'eût suivi dans sa chambre, après une de ces bouderies qui lui étaient familières, Angèle aurait été épouvantée de l'exaspération dans laquelle entrait, tout à coup, le cavalier qui lui paraissait si doux et si « bonasse », comme elle le qualifiait. Les principaux traits de Jacques Bourgeot sont, ce nous semble, suffisamment accentués à présent, pour que nous le ramenions sur le théâtre de l'action. Fin du chapitre 24 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Kerboulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 25 de la deuxième partie, L'évasion, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 25.
Mademoiselle Angèle est bien pressée ce matin, dit Jacques, tandis que la mère Morlaix achevait de parer le déjeuner sur la table. Dame, mon garçon, quand on a de l'ouvrage, Angèle n'a pas le loisir de faire la paresseuse, cette chère petite fille du bon Dieu.
Il ne tiendrait qu'à elle, pourtant, si elle voulait, reprit le jeune homme.
Ah ben oui, crées-tu? Tiens, voilà bien Pierre qui s'en va aussi, s'écria Jacques, en distinguant par la fenêtre le charretier qui passait avec sa calèche.
Oui, on l'a engagé hier soir, à la place Jacques Cartier.
À la place Jacques Cartier? Mais il prend le chemin de la barrière.
Peut-être ben son bourgeois l'aura envoyé de ce côté, répondit la vieille un peu déconcertée.
Sa voiture est vide.
Que veux-tu que je te dise? Mais de quoi est-ce que tu t'inquiètes, mon garçon?
Vous avez raison, reprit Jacques.
Mais je pensais que Pierre pourrait me conduire à la pointe aux Trembles. C'est pourquoi j'étais venu.
Ah, c'est-y pas de valeur, lui qui est retenu pour toute la journée.
Ça me contrarie, dit Jacques en ouvrant la porte. Je vais être obligé de faire la route à pied. Et il sortit aussitôt. Mais, au lieu de suivre la rue Sainte-Marie, il tourna à gauche et machinalement se dirigea vers la maison qu'habitait Angèle. Une voiture stationnait devant l'allée. Bourgeot reconnut le cheval de Pierre Morlaix. Cette découverte, si naturelle en apparence, fit jaillir un soupçon dans son cœur. Se postant derrière une pile de bois de construction, de façon à voir sans être vu, l'amant d'Angèle se mit à observer. Il n'attendit pas longtemps. Pierre déboucha de l'allée, portant sur ses épaules un paquet, enveloppé dans une couverture. Angèle le suivait par derrière. Elle monta dans la calèche, aida le charretier à déposer le fardeau sur les coussins. Ensuite, Pierre s'élança sur son siège, et l'équipage partit au grand trot. Les soupçons de Jacques Bourgeot grandirent. Il courut à la poursuite de la calèche et la rejoignit à l'instant où elle disparaissait sous un hangar attenant à la demeure de Pierre Morlaix.
« Que signifie cela ? » pensa l'amant d'Angèle. « Se moquerait-on de moi ? Ah bien, je saurai dévoiler ce mystère. »
Fin du chapitre 25 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Kerboulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 1 de la troisième partie,
Angèle et Alphonse, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. Alphonse Maigret naquit à Québec, dans une honnête famille d'artisans. De bonne heure, il manifesta un goût prononcé pour l'étude et une rectitude d'esprit qui faisait l'admiration de ceux qui le connaissaient. Alphonse avait à peine atteint sa sixième année quand il trouva par hasard un portefeuille contenant des valeurs en effet de banque pour une somme considérable. Le nom du propriétaire était gravé sur la couverture. Sans rentrer à la maison paternelle et sans consulter personne, le jeune enfant se rendit au domicile de celui qui avait perdu le précieux objet et le lui remit entre les mains. C'était M. Huot, un des principaux notaires de la ville. « Cher petit, dit-il à Alphonse en l'embrassant, tu me sauves la vie. Ce portefeuille renferme des papiers de la plus haute importance. Je te dois une reconnaissance éternelle. Demande-moi ce que tu voudras et tu l'obtiendras. » « Merci, monsieur, répondit-il simplement. J'ai fait mon devoir, je ne mérite rien. » Surpris de cette réplique, qui annonçait à la fois une intelligence précoce et une probité rare, le notaire questionna l'enfant sur ses parents et le congédia après une heure de conversation en lui promettant de s'occuper de son sort. Fin du chapitre 1 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 2 de la troisième partie. Angèle et Alphonse. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. Monsieur Huot était un homme bon et vertueux. Il aimait à obliger ses semblables. Aussi tint-il parole. S'étant assuré que le père d'Alphonse jouissait de l'estime publique, il prit ce dernier à sa charge et l'envoya au collège. L'adolescent réalisa toutes les espérances qu'avait fait concevoir l'enfant. Ses progrès furent rapides, et chaque année il enleva une moisson de lauriers. Mais à l'inverse de la plupart des écoliers que les succès bouffissent d'un sot orgueil, Alphonse ne se laissa point enivrer par les louanges dont chacun se plaisait à l'accabler. La solidité de son jugement, la droiture de son imagination, ne se démentirent jamais. Pour ses condisciples, il fut toujours un compagnon aimable, serviable, généreux. Pour ses maîtres, il fut un élève laborieux, perspicace, doux et docile. Pour son protecteur, il fut un garçon plein de nobles qualités, et pour ses parents un fils excellent, d'une humeur égale et d'une exquise délicatesse de caractère. Grâce à ses dispositions naturelles, Alphonse s'était donc concilié l'amour de tout le monde lorsque le notaire vint à décéder. À cette époque, le jeune homme avait 18 ans. Il travaillait à se faire recevoir avocat. La mort soudaine de celui qui l'avait poussé dans la carrière de la science l'affecta douloureusement. Cette mort lui arrachait un guide sûr et un ami éclairé. Cependant, quoique sans ressources pécuniaires, il poursuivit vaillamment ses études. Afin de subvenir à ses besoins, il fit des traductions pour les marchands, copia des dossiers pour les jurisconsultes, et donna des leçons de français et d'anglais, car il possédait également ces deux langues. Mais un nouveau malheur ne tarda pas à l'assaillir. Son père, charpentier de profession, se tua en tombant d'un échafaud. Alphonse restait seul pour soutenir une vieille mère infirme et plusieurs frères et sœurs en bas âge. Fin du chapitre 2 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 3 de la troisième partie. Angèle et Alphonse. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Aussitôt, la vocation du digne jeune homme fut changée. Il fallait du pain à sa famille. Il résolut de lui en donner, dut cette détermination briser à jamais le magnifique avenir auquel lui donnait droit de prétendre ses talents et ses brillantes qualités. Dans son enfance, aux heures de récréation, il avait appris en jouant à manier la cognée et la bésaiguë. Il n'hésita point à se consacrer à un métier qui procurerait la subsistance à sa pauvre mère. Un ancien ami de M. Maigret lui enseigna le tour du métier et, au bout d'un mois d'apprentissage, Alphonse, employé, sur le port de Québec, à la construction des navires, gagnait 6 shillings par jour. Le premier et le dernier à l'ouvrage, notre charpentier trouvait encore, pendant la nuit, le temps d'approfondir ferrières, cujas, potiers, etc., et de s'initier à l'art de la mécanique. Fin du chapitre 3 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 4 de la troisième partie. Angèle et Alphonse, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. Souvent, Alphonse Maigret avait gémi sur la révoltante inégalité des classes. La vue de la richesse crevant d'apoplexie à côté de la misère s'étiolant dans le marasme et la phtisie navrait son cœur d'une indicible tristesse. Il était trop grand pour envelopper l'humanité dans une orgueilleuse malédiction, mais trop courageuse aussi pour ne pas chercher un remède aux maux dont l'aspect affligeait son âme. La politique coloniale anglaise, cauteleuse et oppressive alors, lui parut détestable. Tous les efforts d'Alphonse tendirent à combattre son influence. Mais à mesure qu'il avança dans ses recherches sur le droit naturel des gens et sur les rapports des membres d'une communauté entre eux, Alphonse comprit l'immense action des formes gouvernementales et se créa un système organisateur que n'auraient pas désapprouvé les réformateurs modernes. Ce système peut être résumé par quelques aphorismes. La terre est le principe de toute chose. Tous les hommes doivent avoir part à ses bienfaits. Donc, la terre ne doit point être le partage exclusif de quelques-uns. Donc, la terre doit être affranchie. Donc, enfin, la tenure seigneuriale doit être abolie. Note, le système féodal n'a été aboli au Canada qu'en 1855. Fin de la note. Tous les hommes sont égaux devant la nature, donc ils doivent être égaux devant la loi. Le peuple est souverain, il dispose de tout parce qu'il peut tout. Donc il a le droit de nommer et de révoquer ses législateurs, donc la noblesse héréditaire doit être supprimée. Toutes les fractions d'un État social quelconque doivent travailler à équilibrer l'entier et tous les États sociaux à équilibrer l'humanité. Donc, chacun de nous doit travailler dans sa sphère, à l'égalité des conditions, au nivellement des castes. Pour instrument de ce travail, nous avons le progrès. Le progrès, c'est la manne donnée au peuple. Le désir du progrès révèle un esprit magnanime, car le progrès est le fils aîné de la vertu. Le progrès, c'est l'acheminement vers la perfection. La perfection, c'est Dieu. Le progrès, c'est la réflexion de la lumière spirituelle sur tous les actes physiques ou moraux. Vouloir le progrès, c'est vouloir la radiation du mot « égoïsme », puisque c'est vouloir une commune participation au bénéfice de l'intelligence. Vouloir le progrès, c'est vouloir la radiation du vieux primo mihi, puisque c'est vouloir une commune participation au bénéfice de la vie matérielle. Le progrès, c'est l'égalité, la fraternité. C'est la mise en pratique de la plus belle des vertus théologales. Point de progrès si les masses ne prennent part à ce sacrement qu'on nomme science, ici, dans ce palais. Nourriture animale, là-bas, dans cette mansarde. Le progrès appartient à tout le monde, c'est un lot commun. Chacun a donc le droit de venir s'asseoir à sa sainte table. À cette table, il n'y a pas d'amphitryon, pas de parasites, mais il y a des frères commensaux. Le progrès compose l'air hygiénique que nous respirons. Il nous pénètre par tous les pores, dans une atmosphère vraiment démocratique. Le simoun de l'absolutisme dessèche son fluide prophylactique et vivificateur. Le progrès fleurit au sein de la démocratie, il s'étiole et s'alanguit sous le souffle pestilentiel de la tyrannie. L'homme doit sans cesse aspirer à la liberté complète ou au pouvoir d'exercer à son gré toutes ses facultés avec les droits d'autrui pour borne et sa conscience pour règle. La liberté complète, c'est la liberté religieuse, la liberté d'enseignement, la liberté de conscience, la liberté de la parole, la liberté de la presse, la liberté d'industrie,
la liberté individuelle. Il viendra un temps où l'homme ne relèvera que de l'opinion de ses semblables. Alors, il n'y aura plus de loi prohibitive. C'est ainsi que j'interprète la parole de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Fin du chapitre 4 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 5 de la troisième partie. Angèle et Alphonse, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. Ses idées philosophiques étaient au niveau de ses théories politiques. Par exemple, comme un de nos plus profonds penseurs, il disait, en parlant des destinées de l'humanité, « L'homme est né pour être libre, intelligent et bon. Par son intelligence, l'homme marche à la vérité. Par sa liberté, l'homme aspire au bonheur. Par sa bonté, l'homme veut la justice. Vérité, bonheur, justice, voilà les éléments de la destinée humaine. La vérité et la justice sont la route, le bonheur et le but. Mais pourquoi faut de souffrances, d'injustices et d'erreurs dans le monde si l'homme veut la vérité, la justice, le bonheur ? C'est que primitivement l'ignorance était la condition de l'homme et de la société, et c'est de cette ignorance que sont sortis les fléaux qui nous accablent, l'égoïsme, la misère, les fausses doctrines, les lois injustes, etc., etc. Et ce sont ces fléaux qui ont perverti l'homme et l'ont condamné à d'horribles souffrances. Mais une espérance immortelle le soutient. La souffrance même force l'humanité à développer les ressources de sa nature. Sous l'aiguillon de la nécessité, le travail féconde la terre, crée l'industrie et les richesses, l'étude mûrit la raison de l'homme, anéantit successivement toute superstition, tout préjugé, toute erreur. Sur les ruines des sociétés subversives s'élèvent des sociétés moins injustes. L'humanité prend possession de sa puissance et déchire le voile qui lui cachait sa véritable destinée. Fin du chapitre 5 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 6 de la troisième partie. Angèle et Alphonse, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. Pavé de politique jusqu'aux pages d'une nouvelle, c'est dépasser les bornes des respects qu'on vous doit, n'est-ce pas, mesdames? Oh, les feuilletonistes ont d'abominables lubies, j'en conviens. Tout aussi bien que les publicistes, il faudrait les accrocher à la lanterne. Mais que voulez-vous? Chacun a ses petits défauts, nous comme vous, chère lectrice. Gracieux chez votre sexe, ces défauts sont grossiers chez le nôtre. Qui est coupable? Pas vous, assurément. Imaginez-vous que nous le soyons davantage? Cependant, il existe un criminel. Si nous le cherchions, ce méchant, cet esprit du mal qui agace nos muscles, irrite nos nerfs, aigrit notre voix, exaspère nos doigts, met du feu sous nos pieds, de la lave dans notre corps, des épingles sur le coussin de notre fauteuil, des tisons ardents dans notre cerveau. Ah oui, si nous le cherchions. Voyons, où est-il? Qu'on nous le montre. Où se cache-t-il? Qu'on nous l'apporte, cet assassin, ce meurtrier, cet iconoclaste, ce déchireur de gazettes, ce rongeur de livres, ce... Mesdames, placez-vous la main sur le cœur et vous le sentirez palpiter. Messieurs, tâtez-vous le pouls et vous compterez ses pulsations. Il est dans notre sang, il est dans notre économie, il s'appelle la nature organisée. À moi, cette découverte prouve que nul ne peut échapper à son caractère. À vous, elle ne prouve rien, sinon, peut-être, que je vous ennuie, mais elle prouve, en même temps, qu'Alphonse Maigret étant libéral, je suis bien obligé de le peindre avec ses qualités et ses imperfections. Fin du chapitre 6 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 7 de la troisième partie. Angèle et Alphonse,
De la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Or, Alphonse Maigret mit, par sa nouvelle position, en rapport quotidien avec les ouvriers, vit ses chaleureuses convictions s'épurer au creuset de l'infortune. Parmi ses compagnons d'atelier, il rencontra des gens actifs et intelligents. Il se plut à leur inculquer une partie des connaissances qu'il avait acquises. Sa charité, son aménité, lui firent de nombreux amis. Et ce qui est rare, ses égaux, tout en le chérissant, gardèrent toujours vis-à-vis de lui une déférence entière. Il ne tutoyait personne, nul ne s'avisa de le tutoyer, ou même de trouver mauvais qu'il ne se livra pas à la familiarité ordinaire dans les chantiers. Un trait de courage, accompli en présence de tous ses camarades, acheva de lui gagner la considération de ceux qui, d'abord, l'avaient traité de « demoiselle ». Certaine après-midi, qu'Alphonse était occupé à radouber un brick à la pointe Lévis, une tempête effroyable éclata tout à coup. Le Saint-Laurent grossit avec une rapidité prodigieuse, ses grandes lames se déferlèrent sur la plage en mugissant, et les nombreux navires mouillés dans la baie, dérapant sur leurs ancres, s'entrechoquèrent tumultueusement les uns contre les autres. Au fort de l'ouragan, une barque, partie de Québec, luttait contre la violence des flots pour atteindre le rivage. Mais, quoique montée par trois hommes robustes, elle ne pouvait aborder et menaçait à chaque instant de chavirer. Les charpentiers, répandus sur la grève, cherchaient par leurs clameurs à encourager les malheureux bateliers. Ces clameurs s'égaraient au milieu des éléments en furie. Soudain, une vague énorme, bondissante, arrive. Ne la voyant pas venir, l'homme assis à la barre tourne le cap vers elle, et la montagne liquide s'abat comme une avalanche sur la frêle embarcation. Un cri déchirant retentit, et pendant une minute, l'on n'entend plus que les mugissements de l'onde courroucée, le sifflement de la bise qui se lamente dans les agrès des paquebots. « Une corde ! Attachez-moi une corde autour des reins !» dit Alphonse. On lui obéit. Le jeune homme est dans le fleuve. Tantôt il nage, tantôt il plonge, et toujours il avance vers le lieu où les trois naufragés ont enfoncé. Après 10 minutes d'efforts inouïs, et après être resté longtemps sous les eaux, il reparaît tout à coup, tenant un homme par le bras. Au moyen de sa corde, on l'aide à regagner la rive. Il dépose son fardeau, et, sans vouloir écouter les conseils des assistants, qui l'engagent à se reposer, il se jette dans le fleuve et en ramène bientôt une seconde victime. Mais alors ses facultés physiques épuisées ne lui permirent pas une troisième tentative, et le Saint-Laurent conserva sa dernière proie. Je l'ai dit, cet acte d'intrépidité et de vigueur lui concilia, à jamais, les égards de quelques ouvriers qui, par jalousie, étaient disposés à le dénigrer. Fin du chapitre 7 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 8 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8. Devenu promptement un habile charpentier et un mécanicien distingué, Alphonse Maigret gagna assez d'argent pour procurer une honnête aisance à sa famille. Il aurait pu vivre heureux et même monter les degrés de la fortune en sacrifiant ses opinions politiques à ses intérêts personnels. Mais il était doué d'une âme trop noble, trop enthousiaste pour ne pas viser à la réalisation de pareilles doctrines. Non content de faire une propagande virulente contre le gouvernement anglais, il se mêlait à toutes les agitations soulevés à cette époque, dans la population franco-canadienne, par des vexations que des agents de la Grande-Bretagne prodiguaient à ses compatriotes. Ayant appris qu'un mouvement populaire se préparait à Montréal, il y courut aussitôt, mais l'insurrection fut étouffée à son éclosion, et notre démocrate, saisi avec plusieurs des conjurés, fut plongé dans un cachot. Dans ce cachot, il rencontra un Irlandais du nom de Michael, plus généralement connu sous celui de Mike, détenu pour délit criminel.
Mike était un homme résolu et entreprenant, Alphonse ne l'était pas moins. Les deux prisonniers conçurent un projet d'évasion. On sait comment ils l'exécutèrent. L'un fut repris, l'autre s'échappa, vint tomber chez Mademoiselle Angèle, qui le fit transporter à la maison de Pierre Morlaix, où nous allons le retrouver, en tête-à-tête avec la gracieuse enfant. Fin du chapitre 8 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 9 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9. Il était minuit. Dans une petite chambre, coquette, riante, sur un lit tendu de rideaux blancs bien propres, un jeune homme dormait. Assise à son chevet, dans un antique fauteuil en jonc, une jeune fille reposait aussi. Le sommeil l'avait gagné tandis qu'elle veillait son compagnon. Sa tête alanguie s'était peu à peu affaissée sur son épaule, puis doucement, très doucement, était allée se creuser un nid sur l'oreiller voisin. Dans ce combat entre sa volonté et la nature qui réclamait ses droits, les cheveux de la jeune fille avaient, peu à peu, rompu leur digue d'écailles, et maintenant ils inondaient le lit de leurs ondes parfumées. À la lueur d'une veilleuse, on distinguait une scène charmante, scène comme les aime un poète. Placée sur une petite table, en arrière des deux personnages, la veilleuse, de sa clarté limpide, en lutte avec l'ombre, les enveloppait comme sous une gaze diaphane, à travers laquelle les formes, les angles, se noyaient harmonieusement. Il eût fallu le pinceau de Paul Véronèse pour peindre la mélodie de ces deux têtes se détachant sur la blancheur immaculée du lit au milieu d'un crépuscule vaporeux. Rien de heurté dans les contours, rien de brusque dans les teintes, c'était cette dégradation, ce fondu de toutes les couleurs, ce moelleux de linéaments qui font l'honneur et le désespoir des artistes. Les deux jeunes gens, nous n'avons pas besoin de le dire au lecteur, avaient nom Angèle et Alphonse. Fin du chapitre 9 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 10 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10. Seul le bourdonnement de quelques moustiques et le frémissement d'une phalène, voltigeant autour de la lampe, troublaient le calme de la nuit. À ces sons imperceptibles se mêlait le murmure de la respiration régulière des deux dormeurs. Bruits argentins comme une symphonie lointaine. Tout à coup, le jeune homme fit un mouvement. La jeune fille ne bougea point. Son haleine continua de moduler ses aspirations et expirations alternatives. Le premier mouvement d'Alphonse fut suivi d'un deuxième. Ensuite, il ouvrit les yeux. Mais il les ferma presque aussitôt, ne pouvant supporter le faible éclat de la lumière. Plusieurs minutes s'écoulèrent sans qu'il songeât à dessiller les paupières. Il rappelait ses souvenirs, les coordonnait dans son cerveau. Après avoir ainsi revisité Québec, sa ville natale, sa pauvre vieille mère, ses frères et sœurs, ses compagnons d'atelier, que la nouvelle de son arrestation avait navré de douleur, après avoir repassé les diverses péripéties de la conspiration dont il était victime, après avoir aperçu sa prison, assister à sa propre évasion, après être entré dans la chambre d'Angèle, l'ange qui l'avait sauvé, après avoir senti son cœur battre d'une douce émotion, à la réminiscence de ce que sa protectrice avait fait pour lui, Alphonse voulut revoir le tableau, dont il pressentait, plutôt qu'il n'avait vu, les charmes. Le délicieux visage d'Angèle, soutenu dans sa main gauche, était tourné vers le sien, si près que celui du malade se baignait dans les effluves d'un souffle embaumé, si près que les boucles soyeuses de la belle jeune fille se mariaient à la brune chevelure du jeune homme. Longtemps, longtemps, Alphonse la regarda, dans une muette extase,
oubliant les âpres élancements de la blessure qu'il avait à l'épaule, oubliant sa situation, comprimant les pulsations de son sein, retenant son haleine, de peur de l'éveiller. Par hasard, le bras du jeune homme étendu sous le cou de la jeune fille lui tenait lieu de coussin. Qui pourrait dire ce qu'éprouva alors le charpentier, encore sous le coup des violentes commotions cérébrales qu'il avait éprouvées? Angèle rêvait, car un chaste sourire voguait sur ses lèvres vermeilles comme le bouton de la rose de mai. Lui aussi, il crut qu'il rêvait, ou que son âme avait quitté son enveloppe d'argile pour s'élever dans des sphères inconnues. Son esprit vierge, enclin à la contemplation, n'avait jamais imaginé que la vie pût présenter des sensations tellement enivrantes qu'on désira la mort pour les emporter avec soi dans la tombe. Et, cependant, toutes les pensées d'Alphonse étaient pures et saintes. Il était heureux d'un bonheur étrange dont l'affaiblissement de son cerveau, par une fièvre violente, exaltait les jouissances jusqu'à l'infini. Fin du chapitre 10 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en novembre 2010.
Chapitre 11 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 11. Soudain, la sonnerie d'une vieille horloge, appendue à la muraille, fit entendre ce ronron enrhumé qui précède le choc du marteau sur le timbre, et Angèle s'éveilla en sursaut. Mue d'un sentiment exquis, dont les femmes sauront apprécier toute la délicatesse, Alphonse feignit aussitôt de dormir. Trompée par ce subterfuge, la jeune fille sourit, en remarquant le désordre de sa toilette, se dégagea du collier que le bras du malade formait autour de son cou, et ayant jeté sur le pâle visage de notre héros un coup d'œil plein de sollicitude, courut à un petit miroir, devant lequel elle renoua ses cheveux et rajusta son corsage. Le charpentier l'épiait entre les cils de ses yeux entr'ouverts. Quand elle eut fini, Angèle revint, d'un pas léger, près de la couchette, borda les couvertures qui s'étaient dérangées, renouvela la veilleuse de sa lampe, et prit une broderie qu'elle avait quittée pour savourer les pavots de Morphée. Dieu, qu'elle était ravissante ainsi, notre Angèle! Comme la robe de barège noir qu'elle portait, sur une jupe de piqué blanc, faisait bien valoir les admirables proportions de sa taille, si mignonne à sa naissance, qu'on l'aurait emprisonnée entre deux empans, si développée à la hauteur des épaules, qu'on craignait de la voir fléchir sur sa cambrure, comme un roseau sur sa tige. Comme cette même robe tranchait vivement avec la carnation veloutée de la jeune fille, carnation qui avait emprunté ses nuances à la pulpe d'une pêche. Comme, enfin, on aurait aimé à baiser ses petits doigts blancs, effilés, aux ongles transparents et rosés comme l'opale, qui s'échappaient des manches longues, agrafées aux poignets de cette robe de barège noir. Les phalanges de ses doigts, ornées de fossettes, nuancées de filets d'azur, eussent défié le ciseau de Pradier, comme le visage d'Angèle eût fait pâlir la Madone de Sanzio. Ce visage, oserons-nous bien essayer de le reproduire avec une plume incolore, des mots inanimés? Si Pygmalion voulait le feu sacré de la vie pour Galatée, si son chef-d'œuvre lui semblait frappé de mort, que dirons-nous, nous qui ne possédons, pour mouler la beauté d'Angèle, pour vivifier ces grâces inimitables, qu'un peu d'encre boueuse et une feuille de papier jauni. Quoi donc, la langue française offrirait des expressions correspondantes à ce modèle de perfection dont chaque trait, chaque teinte était un cartel lancé à l'art. Quoi donc, nous pourrions vous faire toucher, palper les touffes de cette chevelure blonde aux reflets dorés qui, se partageant au-dessus du front en deux bandeaux mouvants, venait se rouler par une opulente torsade derrière une tête dont le galbe surpassait celui de la Vénus de Milo? Quoi donc, nous pourrions ciseler ce front d'une pureté angélique, indiquer l'arc de ses sourcils, mollement courbés en demi-cercle, éclairer ce grand œil brillant où roulait une prunelle noire, comme le jet, dans un médaillon d'émail,
frangée d'une fibrille rose tendre. Et, suivant la progression, nous sculpterions ce nez grec, taillé sur des méplats arrondis, et précédant une bouche plus fraîche que le calice d'une fleur, et dans laquelle étincelaient les 32 perles classiques, chantées par tous les poètes du XVIIIe siècle. Quoi donc, notre main inhabile pourrait dévoiler ces trésors enchanteurs, ces charmes divins qui avaient fait surnommer Mademoiselle Angèle la jolie fille du faubourg Québec? Avouons-le, en toute humilité, nous ne le croyons pas. Aussi, pour ne point tenter une tâche impossible, nous vous dirons, lecteur, ayez foi dans le bon sens populaire et figurez-vous ce que pouvait être celle que la foule envieuse et toujours plus prête à médire qu'à louanger avait unanimement baptisée la jolie fille du faubourg Québec. Fin du chapitre 11 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010.
Chapitre 12 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12. Le silence se prolongeait dans la petite chambre. L'on n'entendait que le frôlement de l'aiguille dans le tulle, le bourdonnement des moustiques et le frémissement de la phalène qui achevait de brûler ses ailes à la flamme de la lampe. Alphonse n'avait pas changé de position. Ébloui par le soleil même de son admiration, il rêvait dans la réalité qu'il avait sous les sens. Probablement, cet état aurait duré plusieurs heures encore, sans qu'il lui vînt à l'idée d'en sortir. Mais sa poitrine oppressée livra cours à une petite toux sèche qui, tout de suite, éveilla l'attention de son infirmière. Elle s'approcha du lit, en glissant sur le plancher comme une sylphide. À l'aspect du jeune homme, qu'il examinait avec un radieux sourire de reconnaissance, Angèle poussa un cri de joie. Alphonse prit sa main, qu'elle lui abandonna sans résistance.
« J'ai été bien malade, n'est-ce pas ? » murmura-t-il d'une voix plaintive.
« Oh !»
Puis ce fut tout. Ces deux enfants, si beaux de leur vertu, de leur innocence, confondirent leurs âmes dans un regard passionné. La main d'Angèle tremblait dans celle d'Alphonse. Celle d'Alphonse frémissait dans celle d'Angèle. Ils s'aimaient. Avait-il besoin de se le dire ? Fin du chapitre 12 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010.
Chapitre 13 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 13. La première, Angèle s'arracha aux fascinations de ce magnétisme dominateur. « Avez-vous soif ? » demanda-t-elle d'un ton troublé. Le charpentier ne répondit pas. Il errait toujours dans les plaines d'un monde éthéré. La jeune fille réitéra sa question en lui préparant une potion. « J'étais si bien, » balbutia Alphonse. « Pourquoi m'avez-vous quittée, ma sœur ?»« Tenez, buvez, ce breuvage vous donnera des forces, » dit Angèle, revenant vers lui, les yeux baissés. Il prit la tasse, la porta à ses lèvres, et puis l'en détourna. « Vous ne voulez pas boire ?»« Je n'ai pas soif. »« N'importe, monsieur Alphonse, il faut boire. » « Mon Dieu, vous savez mon nom? Qui vous l'a appris? Comment se peut-il » « Hé, hé, pensez-vous qu'il ne soit pas connu de toute la ville ?» répliqua-t-elle en souriant. « Voilà 8 jours passés depuis votre évasion, monsieur. »« 8 jours ?»« Oui, 8, nous entrons dans le 9e. »« Mais... » « Buvez d'abord, après je vous expliquerai cela. Ne craignez rien, vous êtes en sûreté, chez de braves gens qui se feraient plutôt hacher que de vous livrer à vos bourreaux. » « Oh !» commença le charpentier. « Buvez, je vous en prie. Pour l'amour de vous !» s'écria Alphonse, en avalant d'un trait le contenu de la tasse. « Merci, » dit-elle en rougissant. « Merci, » dit Alphonse surpris. « N'est-ce pas moi ?»« Vous, monsieur, je vous ordonne de ne pas parler. Le médecin l'a défendu. Pour vous tranquilliser, je vous apprendrai que vous êtes chez un ami qui partage toutes vos idées politiques. » je vous y ai fait transporter le jour. Vous vous souvenez ? » Le jeune homme hocha affirmativement la tête, et la jolie fille continua. « Par malheur, votre blessure s'était envenimée pendant la nuit. Le délire vous possédait quand je vins vous chercher, et en arrivant ici, vous aviez, pour la seconde fois, perdu connaissance. Les symptômes d'une fièvre violente se déclaraient. Nous n'avions pas prévu ce cas. J'ai dû vous causer bien du tourment. » « Entêtée, dit presque gaiement Angèle, ne vous ai-je pas interdit la parole ? Si vous desserrez encore les dents, je m'en vais, monsieur. » Sa voix avait adopté cette inflexion enfantine et impérative dont les femmes usent assez volontiers avec ceux qu'elles affectionnent. « Je vous jure, » commença Alphonse. « Bon, » dit-elle en lui fermant la bouche de sa petite main, menue, effilée comme celle d'une duchesse. « Est-ce ainsi que vous tenez compte de mes ordres ? Méchant, va, il ne veut pas guérir. Voyons, buvez maintenant une autre tasse, monsieur. Vous avez encore 3 doses à prendre. » Lorsqu'il eut bu, sa gentille compagne reprit. « Je disais donc que vous étiez bien malade et que nous, enfin Pierre, songea au docteur Dubois, un honnête médecin, un digne Canadien. Il lui confia notre secret, et c'est lui qui vous a soigné. » Fin du chapitre 13 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Ecker-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 14 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 14. La porte de la chambre venait de s'ouvrir, et la mère Morlaix s'avançait à pas de loup. « Quien, quien ? « Vous jasez, enfant » marmotta-t-elle en approchant du lit. « Eh ben, comment qui va ce cher amour du bon Dieu ?» D'un regard, Alphonse avait interrogé sa bienfaitrice. « Soyez tranquille, » lui dit-elle, « c'est ma mère. »« Oui, sa mère d'adoption, » dit la bonne vieille avec un mélange d'orgueil et de plaisir. « Car c'est moi qui l'a nourrie, élevée, induquée notre Angèle. Mais v'là que je bavasse comme une pie. »« Permettez-moi de vous baiser la main, » dit Alphonse. « Quoi, quoi, me baiser la main, Seigneur Jésus, y pensez-vous, mon fils ? Est-ce qu'on est une jeunesse, nous autres ? Embrassez-moi, ça vaudra mieux. Là, sur les 2 joues, pardi, je savons qui vous êtes. Un brave et digne garçon, fièrement savant, mais pas vaniteuse en toute. Ah, votre mère doit être joliment contente d'avoir un enfant comme celui-là. Dame, vous êtes ahurie ? C'est que j'avons été aux informations sur votre compte. » Et qu'on nous a conté tous les beaux sacrifices que vous avez faits pour votre chère famille. C'est ben ça, mon gars. Le bon Dieu qui est là-haut vous bénira. Mais faut pas vous impatienter. Ils sont ben chez vous. J'avons reçu de la nouvelle pas plus tard qu'hier, et ils savons y tout où que vous êtes. Mais, Motus, v'là cette pauvre Angèle qui est fatiguée, je viens la relever. Allons, petite, il est temps d'aller te coucher. » À ce moment, un cri perçant retentit dans la rue des Voltigeurs. « Qu'est-ce que cela ? » fit la jeune fille en se précipitant vers la fenêtre. Fin du chapitre 14 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Ecker-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 1 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. Le lecteur n'a point oublié l'espionnage auquel s'était consciencieusement livré Jacques Bourgeot, ni les paroles menaçantes qu'il avait prononcées, en remarquant que les inquiétudes de sa jalousie prenaient de la consistance. Un instant, il se demanda s'il ne rentrerait point chez Pierre Morlaix, afin de tâcher d'y saisir le fil de l'intrigue qu'il pressentait. Mais, réflexion faite, il se résolut à user de ruse. Et, après avoir attendu près 1 heure pour voir si Angèle et le charretier ressortiraient, il se dirigea vers la rue Notre-Dame. Comme il arrivait sur la place Jacques-Cartier, un jeune homme, à la mine astucieuse et repoussante, l'aborda. « Bonjour, Jacques. »«
Bonjour. »«
Comment ça va-t-il aujourd'hui ?»«
Bien, » répondit, d'un ton bourru, le fils du commerçant retiré. « Tu parais diantrement maussade. Est-ce qu'on t'aurait marché sur le pied ?»
Marcher sur le... Qu'est-ce que tu veux dire ?
Pardi, je te demande si, par hasard, tu aurais eu dispute avec quelqu'un. Tu as la figure aussi nébuleuse qu'une soirée de novembre. Mais viens-tu prendre une gobe ? ça chassera les brumes du matin. Je refuse pas, quoique tu parles toujours en tarme, toi. Sapristi, c'est mon devoir, mon coq. Note, locution canadienne, comme gob, etc. Fin de la note. On n'est pas journaliste pour rien. Où entrons-nous? Crédier, il y a de fameux brandis chez la mère Allais. Si on y allait. Fin du chapitre 1 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Ekerd-Boulet à Copenhague en décembre 2010.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.